RFI.
Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient, comme tous les jours RFI vous donne la parole dans 30 minutes, la libre antenne, vos réactions sur l'actualité de votre choix, tous les sujets nous intéressent, donc rejoignez-nous ici à Paris, venez lancer le débat en direct sur RFI 33 9 693 693 70, vous pouvez également nous envoyer vos commentaires, vos coordonnées en message privé sur les réseaux sociaux, la page officielle, la page Facebook officielle de l'émission RFI Appel sur l'actualité, on vous attend évidemment très nombreux. Mais d'abord, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Ce matin, nous avons sélectionné des questions sur la mort au Mali du djihadiste Amadou Koufa. On va revenir sur la polémique autour des premiers bébés génétiquement modifiés. Ou encore, nous avons des questions sur le Brésil. Et on va commencer justement avec cette décision prise il y a quelques jours par le président élu Jair Bolsonaro. Bonjour Blaise.
Allô.
Bienvenue Blaise.
Ah, bonjour Juan, bonjour à tous et bienvenue à Boisflay dans la Marawé.
Merci de nous accueillir en Côte d'Ivoire, donc à Boisflay. Quelles sont vos questions?
J'ai appris sur les antennes de RFI que le Brésil renonce à l'organisation de la COP25. Alors, à quelques jours de la COP24, quel message le président brésilien envoie-t-il à la communauté internationale avec une telle décision? Et autre chose, est-ce qu'on peut s'attendre à la sortie du Brésil de l'accord de Paris?
Ah, bonne question, d'autant que, rappelez-vous, Blaise, durant la campagne électorale, Jair Bolsonaro avait menacé, en cas de victoire, de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Bonjour Armel Enders.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8, spécialiste du Brésil. Le Brésil ne recevra pas la COP25. Cette annonce, finalement, confirme que l'environnement n'est pas une priorité pour Jair Bolsonaro, qui prendra ses fonctions dans quelques semaines, en janvier.
Ça n'est même pas... C'est pire que ça, c'est pas une priorité. C'est le fait qu'on est dans le négationnisme pur. Pour Jair Bolsonaro et les ministres, notamment le ministre des Affaires étrangères, le futur ministre des Affaires étrangères, le réchauffement climatique, c'est une conspiration de la gauche internationale. Et ça ne prête à aucune mesure concrète et ça c'est purement idéologique.
Alors lui dit nous voulons préserver l'environnement mais pas de la manière dont cela est fait actuellement.
Oui, enfin il dit tout et son contraire en permanence. De toute façon, ce qui est sûr, c'est il y a deux éléments, c'est-à-dire que Trump est l'idole absolue de ce gouvernement. Donc on sait ce que Trump pense du climat. Et deuxièmement, parmi les soutiens de Jair Bolsonaro, il y a les propriétaires fonciers qui s'attaquent à l'Amazonie. Mmh. Et puis, donc, c'est un élément de souveraineté nationale pour Bolsonaro et notamment, il a bien indiqué aussi que sous son gouvernement, les Indiens n'auraient pas un pouce de terre.
C'est un ensemble de... Il veut transformer des forêts en terres destinées à l'agriculture. Il disait durant la campagne électorale vouloir fusionner les ministères de l'agriculture et de l'environnement. Est-ce toujours d'actualité?
Alors, il est revenu en arrière parce que même, en fait, l'agro-business était un peu inquiet de la tournure. Mais enfin, de toute façon, la ministre de l'agriculture, la future ministre de l'Agriculture, est un pilier justement des propriétaires fonciers et son surnom avant d'être nommée, c'est la muse des pesticides.
Ah oui.
Bon, donc l'environnement, c'est vraiment pas... C'est pire qu'une... Encore une fois, ça n'est pas leur priorité, c'est pire que ça.
Ouais, d'ailleurs, il n'y a toujours pas de ministre de l'Environnement nommé par Bolsonaro. Il a certes encore 5-6 semaines devant lui, mais quasiment le gouvernement est au complet, à l'exception de ce poste au ministère de l'Environnement. Blaise nous demandait, peut-on s'attendre à la sortie du Brésil de l'accord de Paris sur le climat?
Alors, c'est pareil. Donc, on a tout et son contraire. pendant la campagne électorale, Bolsonaro avait dit qu'il ferait sortir le Brésil des Nations Unies ou de la Commission des droits de l'homme. Donc il peut aussi dire qu'il sortirait de l'accord de Paris. Et dire le contraire le lendemain, ça c'est difficile. Mais de toute façon, ils peuvent très bien rester dans l'accord de Paris en n'en respectant pas le moindre accord.
À suivre en tout cas. Oui, merci Armel Enders d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Blaise qui nous appelait de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris 8. Simon Rosé du service sciences de RFI nous rejoint à l'instant. Bonjour Simon.
Bonjour.
Des questions sur la sonde InSight de la NASA, cette sonde qui s'est posée avec succès lundi sur Mars. Bonjour Aruna.
Oui, bonjour, Juan.
Vous avez des questions à poser à Simon Rosé?
Oui, effectivement.
On vous écoute.
Ok, donc, il faut dire qu'en tout cas, lundi, nous avons appris que la sonde InSight s'est posée sur la planète Mars. Donc, je voudrais comprendre comment la NASA a-t-elle préparé cette mission alors que l'atterrissage sur Mars est particulièrement difficile.
Alors, c'est une très bonne question, effectivement, Simon Rosé. Déjà, ce n'est pas rien de parcourir 150 millions de kilomètres dans l'espace, mais atterrir sur Mars, c'est vraiment une prouesse technologique.
Oui, bah ce n'est que la huitième fois qu'on y arrive sur 16 tentatives. Donc,
huitième fois dans l'histoire de l'humanité.
De l'humanité, bien sûr. Donc, un ratio de 50-50, et il n'y a que les Américains qui ont réussi à le faire. Donc, pour répondre à Aruna, comment ils ont préparé ça, bah, ils commencent à avoir une petite expérience sur le sujet. Ça fait 6 ans. Leur dernière tentative, c'était il y a 6 ans, c'était la sonde, le rover Curiosity qui s'était posé en 2012. Donc c'est une technologie qui commence quand même à bien maîtriser. On va pas rentrer dans les détails de toute la descente, comment ça se passe, mais c'est quelque chose d'assez complexe plus que
c'est
les
complexe Européens. Parce que la sonde arrive à 20 000 km/h dans l'atmosphère de Mars.
Voilà, donc elle doit avoir un bouclier thermique qui la protège parce qu'elle va frapper l'atmosphère, ce qui va la ralentir. Après il y a des parachutes qui s'ouvrent alors que la sonde va encore à plusieurs milliers de kilomètres heure. Donc il faut qu'ils tiennent le coup les parachutes. Après il y a une séquence en chute libre. Des rétrofusées vont s'allumer au dernier moment et surtout tout est automatique puisque Mars est tellement loin qu'on peut pas communiquer en direct avec la sonde.
C'est-à-dire que les techniciens, les scientifiques de la NASA,
voilà, ils regardent,
suivent tout ça sur un écran géant, mais ils ne peuvent rien faire.
Voilà, c'est pour ça qu'on appelle cette phase qui dure 7 minutes les 7 minutes de terreur, puisqu'ils ont travaillé des dizaines d'années dessus, et pendant ces 7 minutes, les 7 minutes les plus critiques de la mission, ils ne peuvent rien faire, ils ne sont que spectateurs.
Et ils mangent des cacahuètes.
C'est possible.
Non, oui, j'ai lu ça. En fait, c'est pour conjurer le mauvais sort. Ils mangent des cacahuètes.
Ah bah voilà, vous m'apprenez quelque chose.
Phase d'atterrissage. Et je crois que ça remonte, je sais plus depuis quand, mais j'ai lu ça. Voilà.
Ouais, c'est une tradition. Il y a beaucoup de traditions dans le spatial comme ça qui sont maintenues.
Bien. Aruna, vous avez une autre question?
Oui, effectivement, je voulais aussi savoir de quelle manière la NASA va-t-elle exploiter les données et quelle technique va-t-elle utiliser?
Alors, on va peut-être rappeler en quoi consiste la mission de cette sonde. Que va-t-elle faire sur Mars?
Alors, InSight, bah, comme son nom l'indique, InSight, c'est jeter un regard, un coup, un aperçu sur l'inside, l'intérieur de Mars. En fait, le but, c'est de comprendre pourquoi Mars est aujourd'hui une planète morte, avec Curiosity notamment, donc le rover américain qui a atterri en 2012. On sait que Mars a été habitable dans le passé, qu'il y avait des mers, des rivières, des océans. Tout ça, ça a disparu il y a à peu près 4 milliards d'années. La grande question, c'est pourquoi? Alors que sur Terre, bon, bah, on le voit, c'est une planète qui est bleue, qui est verte, qui respire. Ça, c'est resté. Pourquoi une telle différence de destin entre les deux planètes alors qu'elles sont voisines dans le système solaire? InSight va essayer de répondre un peu à cette question. Est-ce qu'il y a encore de l'activité tectonique? Un petit peu, est-ce que le cœur de Mars, le noyau, est-ce qu'il est encore en activité? Est-ce qu'il est éteint? C'est à ce genre de réponse qu'il faudra répondre. Alors, comment la NASA va exploiter les données récoltées? C'est pas la NASA, en fait, qui exploite les données. Ce sont les scientifiques qui ont posé des instruments à bord de la sonde. La NASA, elle se contente juste de les opérer, de les utiliser, mais elle transmet ensuite les données aux équipes scientifiques. Quelle technique utiliser? On va faire ce qu'on a fait sur Terre. On va utiliser les ondes sismiques qui ont la faculté de traverser la planète quand il y a un tremblement de terre quelque part sur Terre. Tous les sismomètres, bon, la plupart des sismomètres terrestres vont capter ces ondes, et vu qu'elles sont passées au travers de la Terre, en fonction du délai qu'elles vont mettre pour arriver, de leur fréquence, ce genre de choses, on peut en déduire ce qu'elles ont traversé. C'est ce qu'on va faire sur Mars, donc on va poser un sismomètre, là c'est pour bientôt.
Un sismomètre conçu notamment par les Français.
Voilà, ouais, c'est
Cocorico.
C'est un vieux problème, on pourrait faire une émission sur ce sismomètre, tellement il est compliqué, tellement il a une histoire compliquée. Donc c'est pas simple, poser un sismomètre sur Mars, parce qu'il faut qu'il soit complètement à l'abri, qu'il ne bouge pas, qu'il n'y ait aucune perturbation. Mais voilà, et on s'attend à capter un gros séisme à peu près par an sur Mars, utiliser ces données pour comprendre un peu ce qu'il y a à l'intérieur.
Alors, Aruna nous a posé des questions. Fred nous a envoyé également une question sur Facebook. Il est au Congo. Il nous dit, est-ce que l'atterrissage réussi de cette sonde renforce la perspective d'un premier voyage de l'homme sur Mars?
Non, ça, malheureusement, ça n'a rien à voir. Là, c'est pas ce genre de mission qui prépare une mission humaine, parce qu'une mission humaine, c'est d'une complexité qui est complètement folle, qu'on ne sait pas encore faire, et c'est pas encore dans les cartons, puisque là, ce qui se dessine un peu à l'échelle internationale, c'est d'abord un retour sur la Lune, mi-temps des années 2020 à peu près, ouais, de la décennie 2020-2030, pour préparer Mars 2030-2040 dans ces eaux-là. On le verra dans notre vie, hein, on espère, mais...
J'espère pouvoir assister.
C'est pas pour tout de suite.
En regardant la télévision. Ouais.
Et ce genre de mission n'est pas vraiment pas faite pour préparer une mission humaine. C'est pas du tout les mêmes technologies qui sont en jeu.
Merci Simon Rosé. Bonne journée à vous. On remercie évidemment Aruna et Fred qui nous ont contactés, qui s'intéressent donc à cette mission sur Mars. 9h22 à Paris. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, vos questions. Non, dans 20 minutes. On me parle au casque en même temps. Les questions, c'est dans une seconde. Mais d'abord, je vous rappelle la libre antenne évidemment dans 20 minutes. Vous nous appelez pour commenter l'actualité de votre choix. Je vois des réactions notamment sur la campagne électorale en République démocratique du Congo, des réactions sur l'opposition togolaise qui a décidé de boycotter les législatives du 20 décembre. Pour ou contre cette décision, on en parlera évidemment tout à l'heure. On reviendra, parce que vous avez été nombreux depuis lundi à réagir sur l'annonce du gouvernement français d'augmenter considérablement les frais d'inscription dans les universités pour les étudiants étrangers. D'ailleurs, je vous informe que Emmanuel Bastide, 7 milliards de voisins, reviendra sur cette actualité dans un peu plus d'une heure et demie maintenant. 33 9 693 693 70. Bonjour Sékou.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler du Burkina Faso. Vous avez des questions, vous, concernant la lutte contre le terrorisme au Mali?
Oui, effectivement, bon, je vous appelle du Mali, c'est pas le Burkina Faso.
Ah, très bien. Bah, écoutez, autant pour moi, je me suis trompé. Effectivement, je me suis trompé de fiche. Vous êtes à Bamako, dans la capitale malienne. On vous écoute.
Oui, effectivement. On a appris la mort de Amadou Koufa suite à une raid de forces françaises Barkhane et de l'armée malienne.
Oui.
Donc, je voudrais savoir de quelle manière les autorités maliennes ont pris part à cette raid.
Alors, cette opération... Excusez-moi, le réseau de téléphone est très mauvais avec Bamako. Et quel...
quel était le degré de leur implication?
Ah, le degré d'implication de l'armée malienne qui a participé effectivement à cette opération menée conjointement avec des soldats français de la force Barkhane. Bonjour Yvan Guichawa.
Bonjour.
Maître de conférence à la Bruxelles School of International Studies. Vous êtes spécialiste du Sahel. Amadou Koufa, chef djihadiste. Il était apparu il y a 3 ans dans le centre du Mali, où lui sont attribuées plusieurs des violences qui ont fait des centaines de morts depuis le début de cette année. C'est une opération, je le disais, coordonnée des armées maliennes et françaises qui a permis donc la neutralisation de ce chef djihadiste. Concrètement, puisque c'est la question de ces coups, quel a été le rôle des forces maliennes dans cette opération?
Alors effectivement, on a eu plusieurs communiqués, tout d'abord annonçant que l'opération avait été exclusivement conduite par les Français, c'était la version française initiale. Les forces maliennes ont tout de suite répliqué par un autre communiqué pour dire que effectivement l'opération avait été coordonnée. Donc il y a un enjeu aussi autour de la communication, puisque tout le monde veut un petit peu s'attribuer les lauriers de cette opération-là. Concrètement, je n'ai pas évidemment le détail minute par minute de l'opération. Ce qu'on peut dire, je pense, avec une certaine confiance dans les propos, c'est que les Français ont exécuté l'opération un petit peu de A jusqu'à Z, puisqu'il y a eu des troupes au sol, des frappes aériennes, et tout ça, c'est le fait des Français exclusivement. En revanche, on peut imaginer tout à fait que les Maliens aient contribué à l'opération sous forme de renseignements fournis sur les va-et-vient de Amadou Koufa et de ses hommes dans la zone.
Ouais. Thomas, qui nous appelait du Burkina Faso, malheureusement, nous ne parvenons plus à le recontacter, nous disait: dans quelle mesure la mort d'Amadou Koufa peut-elle affaiblir la base qu'il avait dans le centre du Mali et faire chuter la menace terroriste dans le reste du pays?
Alors Thomas fait bien de distinguer en fait deux niveaux, celui de l'activité djihadiste dans la zone où ont eu lieu les frappes contre Amadou Koufa et son groupe, et l'activité djihadiste plus générale dans la région, sachant que Amadou Koufa faisait partie d'une coalition plus vaste, mais une coalition d'unités combattantes qui ont une relative autonomie et chacune des aires géographiques d'opération assez définies. Donc au plan de ce qui va se passer au centre, il y a quelques points d'interrogation à lever. Il faudrait savoir, par exemple, si les lieutenants et les chefs militaires de Koufa ont bien été aussi victimes de cette frappe française. Si c'est le cas, on peut bien imaginer qu'il y aura une accalmie des opérations terroristes dans la zone.
Oui, on nous dit qu'une trentaine de personnes ont été neutralisées lors de ce raid de l'opération Barkhane.
Alors c'est effectivement ce qu'on entend, mais est-ce que ce sont les lieutenants les plus importants au plan militaire? Ça, on ne sait toujours pas. On a quelques noms qui circulent. Effectivement, il y a des hommes proches de Koufa et des chefs militaires qui ont vraisemblablement aussi été abattus lors de cette opération-là. Donc on peut imaginer que c'est un coup significatif à la capacité militaire de Koufa dans cette zone. Après, ce qui va se passer dans le futur dépend aussi de la manière dont réagira l'État. Peut-être qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre pour l'État pour essayer de remplir le vide en matière d'administration, d'accès aux services dont profitaient finalement les hommes de Koufa dans cette région-là.
Alors là c'est pour la région du centre, effectivement. Thomas nous demandait aussi, est-ce que cela permettra de faire chuter la menace terroriste dans le reste du pays? C'est peut-être attribuer à Amadou Koufa énormément de pouvoir.
Effectivement, les autres principaux chefs de cette coalition djihadistes ont leur propre aire d'intervention, leurs propres unités combattantes, et donc c'est pas parce que un de leurs membres disparaît de la carte que forcément tout le reste est secoué et sera affecté. Après, politiquement quand même, le chef de cette coalition, c'est Iyad Arali. Il comptait beaucoup sur Koufa pour le recrutement de combattants. Il comptait aussi sur Koufa pour l'équilibre interne politique au sein de cette organisation-là. Maintenant, lui-même se trouve peut-être un petit peu isolé au sein de cette organisation, puisqu'il est un petit peu concurrencé par un autre chef d'origine algérienne. Donc, sur ce plan-là, on peut voir des effets peut-être politiques dont les manifestations seront observables ces prochaines semaines.
Puisqu'il nous reste une petite minute, profitons-en, Yvan Guichaoua. Je vous pose cette question. Est-ce qu'on peut s'attendre à des représailles après la mort d'Amadou Koufa?
Oui, dans les cas passés, par exemple, la mort d'un chef qui s'appelait Niouni, on a vu que l'opération de Ouagadougou, la dernière d'entre elles, était une sorte de réponse à l'exécution par les Français de Niouni dans le cadre d'une frappe. Donc il y a toujours la volonté de montrer qu'ils sont toujours vivants et toujours capables de nuire aux forces contre-terroristes. Mais c'est sur la durée qu'on juge vraiment de l'impact d'une frappe. C'est pas sur juste une opération un petit peu visant juste à maintenir la crédibilité du mouvement.
Merci beaucoup Yvan Guichaoua d'avoir pris le temps ce matin pour répondre à Thomas et à Sekou. Tous les deux nous appelaient après la mort du chef djihadiste, le prédicateur radical malien Amadou Koufa. On avait prévu des questions sur la naissance des premiers bébés génétiquement modifiés. L'auditeur était là, mais malheureusement, on ne parvenait pas à établir la connexion avec Pékin, puisque, vous le savez, c'est un chercheur, un scientifique chinois qui est au cœur de cette polémique. On essaiera évidemment lundi de contacter Stéphane Lagarde, notre correspondant permanent là-bas sur place en Chine. Dans un instant, on retrouve la rédaction pour la dernière édition d'Afrique Matin et on revient tout de suite après pour la Libre Antenne. Vos réactions, vos coups de cœur, coups de gueule sur l'actualité de la semaine. 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.